président de Compass Game assure qu'il travaille encore sur la version finale. En attendant, Kenny Donaldson lui a proposé ses services de conseil.
Julien Chavanne pour refermer ce journal. Merci d'être à l'écoute de la radio.
Radio G. 101.5 FM.
À court d'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres, ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découverte littéraire. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis, à 9h10, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. La semaine dernière, nous avions commencé la lecture du roman Rêvé de Franck Tilliez. Aujourd'hui, il est temps de mettre un terme au suspense laissé précédemment. Effectivement, lors de la première partie, nous avions découvert le personnage d'Abigail, une psychiatre atteinte de narcolepsie qui fait régulièrement des crises et des cauchemars qui l'empêchent parfois de distinguer le monde des rêves du réel. Elle était précédemment avec son père et sa fille en voiture pour un voyage en famille. Mais sur la route, elle a soudainement aperçu une forme devant la voiture et a forcé son père à s'arrêter brusquement. Si vous n'avez pas encore écouté la première émission, je vous invite à la retrouver sur radio-g.fr, rubrique Voix au chapitre, dès maintenant. Alors, cette forme, rêve ou réalité, on va le découvrir. On se retrouve après ce nouvel extrait. Bonne écoute sur Radio G. Abigail sortit en chaussettes et regarda derrière elle, fouettée par des échardes de glace. Une borne kilométrique blanche et rouge sourdait de l'herbe sur le bas-côté, telle une tombe celtique. Elle indiquait kilomètre 12. Aucune trace de la silhouette. Les arbres dépouillés, le macadam fendillé, un silence de mort. Elle fit le tour de la voiture sans noter le moindre choc ni la moindre tache de sang. Yves était sorti, lui aussi. « Abby, tu m'expliques ?» Tu n'as rien vu, une présence ? Non. Abigail remonta dans la voiture et poussa un profond soupir lorsque son père se rassit à ses côtés. Tu peux te remettre en route. Le véhicule toussa et démarra. Abigail se retourna pour s'assurer que sa fille allait bien et fut surprise de voir que Léa dormait à poing fermé. Elle enclencha sa ceinture de sécurité, entendit le déclic caractéristique, encore toute retournée par cette brusque interruption de leur voyage. J'ai vu une espèce d'animal étrange comme un renard qui se tenait debout. C'est ce qu'on appelle une hallucination hypnagogique, une incursion d'images, de rêves dans la réalité si tu veux. Les fameux phénomènes nouveaux, c'est ça? En plus de ta mémoire qui flanche? Mince, tu traînes ta narcolepsie depuis tes 8 ans. Pourquoi tu développes ce truc 25 ans plus tard? On n'en sait rien, ma neurologue n'a pas d'explication. Le phénomène des images hypnagogiques m'arrive heureusement assez rarement. Quand je suis fatiguée et dans la phase d'endormissement, des personnages surgissent devant moi. J'étais en taxi l'autre fois et j'ai cru que le chauffeur allait écraser une femme qui poussait un landau. Il m'a prise pour une dingue. Mais c'est la première fois que je vois une sorte d'animal hybride monstrueux. D'ordinaire, ce sont des êtres humains, des hommes, des femmes en pyjama ou costume cravate qui traversent la route. Comme sur certains de tes photomontages ? Exactement, oui. Un ancien douanier d'1m85, au visage de brique, aux mains comme des battoirs, qui vous regarde sans rien dire. Abigail éprouva le besoin de se justifier. Je ne suis pas schizophrène, papa, d'accord ? D'autres narcoleptiques ont aussi ces visions hypnagogiques. Tout va bien. Enfin, façon de parler. A posteriori, je suis consciente que ces images et ces bruits sont des hallucinations. Si j'avais été à ta place, j'aurais donné un grand coup de frein parce que, au moment où je visualise ces images, je n'ai ni conscience de m'endormir, ni le moyen de savoir si ces silhouettes sont vraies ou non. Je veux dire, un animal ou quelqu'un aurait très bien pu traverser la route devant nous, tu comprends ? Je crois, oui. Et ça t'arrive n'importe quand, le jour, la nuit ? Surtout la nuit. Et lorsque je suis fatiguée, je te l'ai dit. L'affaire sur laquelle je travaille me met sur les rotules. On peut être narcoleptique et complètement crevé. Question perversité, cette maladie détient la palme. Yves gardait la mine grave. les yeux rivés sur la route. Sa fille avait tellement souffert par le passé, avant qu'on comprenne pourquoi elle se blessait si souvent, qu'on lui diagnostique sa narcolepsie et trouve le traitement approprié. Les spécialistes, les centres du sommeil, les traitements, sans oublier l'incompréhension des gens, les moqueries de ses camarades de classe lorsqu'elle s'endormait partout ou s'effondrait par terre, le regard fixe comme une truite qu'on vient d'assommer d'un coup de pierre. Fichue maladie. Tout ça doit être tellement pénible. Merde, Abigail, je suis désolée. Faut pas. En dépit de ce qui venait d'arriver, Abigail bâilla longuement, écrasée par un poids sur la nuque, des picotements au bout des doigts. La narcolepsie se réveillait tel un poison se répandant en elle. La jeune femme n'avait pas pris son propidol, mais le sommeil avait décidé de la kidnapper, la privant de toute possibilité de résistance. « Dans 2 minutes, je dormirai parce que mon corps l'a décidé. Tu veux un autre café ? Je pourrais en boire une citerne et ça n'y changerait rien. Navré papa, tu vas devoir faire un paquet de kilomètres tout seul. » Le voyant d'essence émit un long bip. « À condition qu'on ne tombe pas en panne sèche avant, ajouta-t-elle. Tu pourras mettre la ceinture de sécurité à Léa quand tu seras arrêtée. Je viens de voir qu'elle l'avait ôtée et je suis pas sûre de tenir éveillée jusque-là. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. » Abigail tenta de garder les yeux ouverts. Dehors, la brume jaillissait de la forêt comme des langues d'iguanes. Au-dessus, les frondaisons ployaient, enfonçant toujours plus le véhicule dans un gouffre de ténèbres. La jeune femme se demandait où ils étaient précisément et dans quelle direction roulait son père. Son cerveau tournait à présent au ralenti, enroulé dans une sorte de coton. Elle ne voyait que les bandes blanches défiler sous la berline. Des panneaux qui avertissaient de la traversée d'animaux sauvages et une longue ligne droite. Il glissa sans doute un CD dans le lecteur parce que sa chanson favorite, California Dreaming, envahit l'habitacle. Tellement écoutée qu'Abigail la connaissait par cœur. Ça aussi, elle l'oublierait peut-être un jour. Les notes paraissaient de plus en plus lointaines, perdues dans les méandres de son subconscient. Ses paupières pesaient des tonnes. Elle parvenait à les lever par intermittence, voulait résister au moins jusqu'à la station-service. Mais le serpent de la narcolepsie ouvrait grande sa gueule pour l'avaler. Elle se focalisa sur l'ombre, une trentaine de mètres devant eux, au milieu de nulle part, sur cette route en travaux. Un véhicule semblait à l'arrêt. Yves doubla rapidement l'utilitaire rangé sur le bas-côté. Dans un sursaut de lucidité, Abigail regarda le Kangoo noir au phare éteint. On aurait dit qu'elle avait un problème, cette voiture. Pourquoi tu ne t'es pas arrêtée ? Yves ne répondit pas, et Abigail n'attendit pas de réponse, en proie au grand serpent. Dans sa torpeur, tandis que son corps tout entier se mettait en veille, elle devina le virage qui se profilait. Les voix des chanteurs s'élançaient en chœur, la musique la berçait. La dernière image qu'Abigail vit avant que le reptile n'abatte ses mâchoires fut celle de plusieurs troncs noirs qui se dressaient dans le virage, à tout juste quelques mètres. Le choc fut inévitable. Chapitre 8. Abigail s'immobilisa net, une fois les portes de l'Institut médico-légal franchies. L'odeur de cadavre eut l'effet d'un électrochoc et lui fit réaliser qu'elle n'était pas en plein cauchemar. Parce que le temps se prolongeait, parce que les événements logiques se succédaient, implacables, pareils à des dominos chutant les uns après les autres. Parce qu'elle avait conscience de tout, 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 absolument tout, au détail près, était cohérent. Alors, c'est vrai, tout est vrai, ils sont morts, Frédéric. Elle plaqua une main contre le mur, sa tête tournait. Tu ne tiens plus debout, on a fait une bêtise en venant ici, répliqua-t-il. On va retourner à l'hôpital, on va prendre soin de toi, d'accord ? Je veux les voir. Ma petite fille, ma Léa, c'est ton frère qui s'occupe d'elle, tu m'as dit. C'est bien que ce soit lui. Frédéric était conscient qu'il ne la ferait pas plier. On ne tord pas facilement une barre de fer. Il est dans la deuxième salle avec le responsable d'enquête. Je les ai prévenus qu'on allait passer. J'ai aussi expliqué à Palmieri ce que tu m'as raconté tout à l'heure sur les circonstances de l'accident. Abigail trouva le courage de se redresser et de s'avancer dans ce vieux couloir sombre et gris sans fenêtres. Pareil à un tunnel séparant deux mondes, celui de la lumière et celui des ténèbres. Nicolas Thévenin, le garçon de morgue, les attendait devant le sas. Un type costaud d'une trentaine d'années, des lunettes à monture rectangulaire, un bouc taillé au cordeau, des yeux noirs très rapprochés. Il gérait les entrées et sorties des cadavres, répondait aux demandes des légistes. Un concierge macabre, qui passait plus de temps avec les morts qu'avec les vivants. Abigail croisait parfois ce type sans le voir. Mais cette fois, Elle eut un regard pour lui, cherchant un peu d'espoir, une étincelle de bienveillance. Il avait reçu les corps de sa famille. Il les avait sans doute rangés quelques heures plus tôt dans des tiroirs de morgue, comme on remise une vieille paire de chaussettes au fond d'une commode. Elle cherchait du soutien, mais ne lut dans ses yeux qu'une froideur coutumière. Cet homme avait-il un cœur ? Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le roman Rêvé de Franck Tilliez. Bonne écoute ! Thévenin ouvrit la porte. Le docteur Mandrieux vous attend. Il les accompagna en silence dans la salle d'autopsie, où il faisait presque aussi froid que dehors. Ça puait la mort, la chair rance, l'intérieur d'estomac. Herman Mandrieux était le portrait craché de son frère Frédéric, avec 50 plus. Une belle ride lui barrait le front comme le souvenir d'un coup de machette. À 40 ans, il était l'un des deux médecins légistes qui exerçaient dans cette IML vétuste, aux salles d'autopsie d'un autre âge. Cette fois-là, il avait le visage chauffé à blanc, les lèvres fines comme des lames de scalpel. Deux autres individus, droits comme des piquets, se tenaient à ses côtés. L'adjudant Pascal Palmery, en charge de l'enquête, et l'un de ses collègues. Avant toute chose, les hommes firent part à Abigail de leur tristesse et de leur soutien. Elle resta figée à l'entrée de la pièce, les bras le long du corps. Elle connaissait ces lieux morbides. Elle souhaitait toujours, dans la mesure du possible, assister aux autopsies liées à ses affaires. Il lui était même arrivé de plaisanter ici. De rire, histoire de décompresser, parce que cette garce de mort ne se laissait pas facilement regarder et que parfois, il fallait avoir les tripes bien accrochées. Au milieu de la salle, sur des tables en acier, reposaient deux formes sous les draps bleus, une grande et une plus petite. La lampe cyanalytique positionnée au-dessus laissait peu de place aux ombres, hormis dans les plis du tissu. Ce trop-plein de lumière cisaillait les rétines et avait quelque chose d'irrespectueux. Deux pas en avant, Abigail avait déjà assisté à une reconnaissance de corps, la dernière datant de l'année précédente. La scène imprégnait encore son esprit. Elle, silencieuse dans son coin, a observé un homme qui s'avançait vers la table pour identifier sa femme retrouvée mutilée dans le canal de la Deule. Une impression de violer son intimité par sa simple présence. Ces moments-là ne devraient pas se partager. Or, ce jour-là, c'était elle qui subissait. Qu'est-ce qu'elle fichait dans ce trou à cadavres ? La veille au soir, Léa choisissait encore le pantalon qu'elle allait prendre pour le Center Park. Pourquoi ne lui avait-elle pas bouclé sa ceinture de sécurité ? Elle avait mis la sienne, entendu le déclic avec certitude. Pourquoi ne pas avoir été capable de protéger sa fille ? Le légiste fit le tour de la table et vint à sa rencontre. « Il faut que je te prévienne, le choc a été d'une extrême violence. » Sa voix se différenciait des autres jours, beaucoup moins assurée, et Abigail l'entendit soupirer. Elle fixa les draps là où était censée se trouver la tête de son père. Elle approcha une main vers le haut et souleva. L'horreur, un amas sanguinolent, un relief déchiré, criblé de verre et de métal, qui la poussa à détourner les yeux. Après quelques secondes, le légiste remit le drap en place et désigna les petits tubes emballés dans des scellés, posés sur une paillasse en retrait. Certains portaient un bouchon violet, destiné à la toxicologie. Même si l'identification est difficile, la science les identifiera formellement. J'ai procédé à des prélèvements de cellules dans leur bouche, en présence de l'adjudant Palmery et du brigadier Lebon, qui vont transmettre les écouvillons au laboratoire de police scientifique pour une analyse et une comparaison ADN. Il y avait trois valises dans le coffre du véhicule, intervint Palmery. La vôtre, celle de votre père et celle de votre fille, je présume ? Abigail revit Léa lui sourire, râler, la charrier, un kaléidoscope d'images, de sons qui semblait jaillir d'une télé grésillant au fond de son esprit. « Il va falloir que vous nous confirmiez rapidement que les bagages leur appartenaient. Ensuite, nous ouvrirons ces valises et récupérerons de l'ADN sur leur brosse à dents ou à cheveux, afin de le comparer avec celui des scellés. Pardon d'être aussi procédural dans un moment pareil, mais nous devons être certains des identités. » Il sortit de sa poche un sachet avec une petite clé. Cette clé ouvre la valise rose avec les motifs à fleurs. On l'a retrouvée dans la poche du blouson de... Il hocha le menton vers l'autre drap. Ces valises vont évidemment vous être restituées avec l'intégralité de leur contenu. Autre image. Léa mettant la clé de sa valise rose dans sa poche après avoir rangé son chat en peluche. Le légiste l'amena à l'extrémité opposée de la première table, là où reposait le corps le plus grand, là où elle avait soulevé le drap. Papa. Il portait un pantalon de flanelle gris, une ceinture Hugo Boss noire avec un écusson doré sur la boucle, détailla le légiste. Une chemise bleue, une paire de... Oui, oui, il portait ça, le coupa Abigail. Cette ceinture, je la lui avais offert il y a longtemps. Il gagnait pas des fortunes, mais il avait toujours aimé les belles pièces. Il travaillait encore aux douanes à l'époque et... Le légiste lui tendit un zippo, arborant la gravure d'une pièce d'échec. Le fou. Je me suis dit que t'aimerais le récupérer. Il l'avait sur lui. Abigail fit tourner le briquet entre ses doigts. La sensation de serrer un glaçon. Son père ne s'en séparait jamais. Il avait fait graver le fou parce qu'il était un redoutable joueur d'échecs. Il ne lui avait pourtant jamais appris à jouer. Elle souleva le drap par le bas cette fois. Un pied seulement était chaussé d'une de ses bottes en peau qu'il affectionnait tant. Son père et ses airs de justicier, droit dans ses grolles. Elle remonta jusqu'au torse, vit de nouveau les traces de piqûres sur les avant-bras meurtris et rigides. Le tissu lui donna l'impression de lui brûler les doigts. Elle le relâcha tandis que ses yeux s'embuaient. C'est bien lui, c'est mon père, Yves Durnant. Dans la pièce, tout le monde voulait en finir au plus vite. Le silence perturbé par le froissement du tissu et le ronflement de la climatisation battait dans les tempes. Abigail se décala vers la seconde table et resta figée face au drap. Celui-là, elle ne se sentait pas capable de le soulever. Un geste tellement illogique, inhumain. Herman Mandrieux vint à ses côtés. « Tu veux que je le fasse ? S'il te plaît. » Le légiste s'exécuta. De longs cheveux blonds encadraient un faciès broyé, méconnaissable. L'empreinte en négatif d'un tronc d'arbre. Abigail, encore une fois, ne put supporter ce maelstrom d'horreur. Elle tourna la tête et capta un échange de regards entre Frédéric et son frère. La pitié suintait par tous les pores de leur peau. Elle avait un signe distinctif sur sa cheville droite, détailla Abigail. Un petit tatouage semi-permanent en noir et blanc, celui d'un chat. Elle voulait ça pour ses 13 ans. Je n'étais pas vraiment pour, mais ce tatouage devait disparaître d'ici quelques semaines. Et puis, je voulais lui faire plaisir à ma petite fille. Ses copines en avaient toutes et... Elle aimait tellement ses chats. Oh mon Dieu! Abigail mit ses poings fermés devant sa bouche. Chaque inspiration lui déchirait la poitrine. Puis elle se dirigea vers l'autre extrémité de la table, souleva le drap en douceur, dévoilant deux jambes nues et féminines. Des jambes de gamine, blanches comme du talc. Sur la cheville droite, le tatouage du petit chat avec ses oreilles bicolores. Abigail sentit ses muscles la lâcher et s'effondra. Cet événement est le début de la descente aux enfers d'Abigail. Cet accident de voiture cache de gros secrets et elle fera tout pour les découvrir. Pour comprendre ce qu'il se passait avec son père, pourquoi cela a mené à la perte de sa fille et comment elle a pu y survivre. Mais quand faire la différence entre rêve et réalité est difficile, que ses souvenirs semblent lui jouer des tours, elle aura recours à des méthodes discutables. Nous étions donc sur le roman « Rêver » de Franck Tilliez. Il est disponible aux éditions Fleuve Noir ou en poche chez Pocket. Tilliez n'est pas un auteur accessible pour tout âge. Il faut parfois avoir le cœur bien accroché et ne pas être trop sensible à ses descriptions, parfois très imagées, de scènes littéralement sanglantes. C'est un auteur qui se renseigne toujours sur ses sujets et les livres n'en sont que plus glaçants. La semaine dernière, j'avais dit que je ferais peut-être une petite liste de recommandations. Alors, en dehors de ce roman, il y a toute une collection de livres reprenant deux enquêteurs récurrents, Franck Charcot et Lucie Henbel, notamment avec le diptyque commençant par le roman Le Syndrome E, qui a été adapté en série. Je peux aussi vous recommander le roman Il était deux fois, dont la fin fait sans doute partie de mes préférés. La liste de ces romans n'est pas si courte. Alors si vous en appréciez un, vous plongerez dans un autre, et ainsi de suite. Et la pile de vos livres à lire sera maintenant bien remplie. Vous pouvez toujours retrouver les deux émissions dédiées à ce roman sur radio-g.fr. Nous nous retrouverons pour une nouvelle découverte la semaine prochaine avec un livre de psychologie sur l'estime de soi. En attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end!
www.radio-g.fr.